Lisons ensemble, commençant en verset 1, acte chapitre 15. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que... » Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. » Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Pour l'instant, nous allons nous arrêter là. Le livre des Actes, ce livre a 28 chapitres. Donc nous voici au chapitre 15, mi-parcours. On a fait la moitié, on a encore la moitié. Vous voyez qu'on avance quand même, c'est bien. Nous sommes à mi-parcours. Et beaucoup de commentaires voient ce chapitre, ce concile à Jérusalem, comme, on va dire, le moment le plus dramatique, le plus crucial du livre. Tout avant a conduit un peu à ce moment et tout après va être une conséquence de la décision qu'ils vont prendre ce jour-là. Un moment crucial, oui, dans ce livre. Ça m'a fait penser un peu dans la comédie musicale Les Misérables. Juste avant l'entracte, il y a un dernier chant. C'est une scène assez marquante et mémorable où tous les personnages importants se trouvent ensemble finalement. Et pour les uns, c'est la veille d'une grande bataille. Pour les autres, c'est la veille peut-être d'un grand départ, d'une séparation. Pour les autres, c'est la veille d'une confrontation. Et le chant qu'ils chantent tous, c'est « Demain ». Demain, qu'est-ce qui va se passer demain au grand jour? Ce grand jour qui nous attend demain. Et chacun vit la chose différemment, mais chacun peut chanter. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et ce qui force, c'est la destinée de chacun est mêlée, liée aux autres. Donc, c'est assez dramatique. Et ici, c'est un peu le cas. Nous avons tous les acteurs, tous les personnages réunis. Il y a l'apôtre Paul, il y a l'apôtre Pierre, il y a Jacques, il y a Barnabas, il y a Silas. Et il y a aussi quelque part l'église de Jérusalem, qui est une église phare dans ce début de l'église. Et puis aussi l'église d'Antioche, représentée par Paul et Barnabas, une église phare aussi, une église clé. Donc deux églises clés qui vont se rencontrer. Et toute la question pour nous, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'issue de cette rencontre, cette confrontation en quelque sorte Quel sera le lendemain de l'Évangile? Quel sera l'avenir de l'Église? Quel sera l'avenir de la mission? Parce qu'on, voilà, il y a ces grandes questions qui vont être abordées. C'est ce que nous voulons voir ce matin. Pour aborder ce texte, je propose de voir trois choses. Le grand débat, ensuite la grande décision, et enfin on va terminer avec une petite question. Donc le grand débat, la grande décision et une petite question. Le grand débat. Luc veut nous montrer que ce n'est pas une mince affaire ici, je pense. Il dit en verset 2 que Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Luc, c'est un historien, il reste assez sobre dans la manière qu'il raconte des choses, mais littéralement dans le grec, ça dit ils ont eu une discussion qui n'était pas petite. Alors, quelque chose qui n'était pas petite, pour Luc, il faut croire que c'était pas une mince affaire. Plus tard, il va dire en verset 7, une grande discussion s'est engagée. Donc, il y avait un grand débat. D'un côté, il y avait ceux du verset 1 et du verset 5, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » On appelle ce groupe un peu la partie de la circoncision. Et on les retrouve en verset 5 un peu, du parti des pharisiens qui avaient cru se lever en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc d'un côté, il y avait ces gens-là, et puis d'un autre côté, il y avait notamment Paul et Barnabas, qui représentait un autre point de vue. Non, les païens, il ne faut pas les circoncire. Ils ont accès au salut sans le judaïsme, sans passer par tout ça. Alors, de notre point de vue, peut-être, cela paraît une affaire relativement mineure sur une coutume juive, une petite question à régler. Mais ce n'était pas une petite question pour eux, et c'était un grand débat, parce que là on est dans le passage, tout le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, avec des très grandes implications finalement pour la mission et pour l'Église. Donc les enjeux sont énormes, et finalement cette question, derrière cette question de la circoncision se cache un grand débat, une grande question. Finalement, quel est notre message? C'est ça l'Église qui doit se poser cette question. Quel est notre message? Qu'est-ce que le christianisme finalement? Et comment être sauvé? Comment faire partie de la famille de Dieu? Donc ça, ce n'est pas des petites questions, ça c'est des grandes questions. Donc effectivement, c'est un grand débat. D'ailleurs, ce débat ici nous rappelle que l'Église dans le livre des Actes, parfois on a une image merveilleuse où tout se passe à merveille, c'est toujours le réveil, toujours les bonnes choses, toujours les conversions. Mais quand on voit ça, ce débat qu'ils ont dû traiter vraiment sérieusement et grandement, ce débat rappelle que ces temps-là, même ces temps-là, tout n'était pas utopique et idéal. Nous, on lit ça et on dit, mais comment ils ont pu sortir une énormité pareille? Il faut être circoncis pour être sauvé. Mais de leur point de vue, peut-être ils regardaient notre époque et verraient d'autres problèmes, d'autres questions. On trouverait des choses choquantes peut-être chez nous. Mais en tout cas, de tout temps, l'Église n'a jamais été forcément utopique. Il y a toujours eu des questions à régler, des erreurs à traiter, des mauvaises compréhensions, mauvaises applications de la vérité, de l'Évangile. Et donc, ils procèdent avec beaucoup de sagesse ici. Ils convoquent ce concile, ils vont traiter ça, examiner cette affaire. Et ce grand débat a mis en lumière, il me semble, deux conceptions de la vie chrétienne qu'on retrouve, oui, encore aujourd'hui, deux conceptions à nous d'éviter, quelque part. Voilà comment je vais expliquer ces deux conceptions de la vie chrétienne. Première conception, Jésus, c'est bien, ça apporte un plus dans la vie. Deuxième conception, Jésus, c'est bien, mais ça manque quelque chose. Et voilà, c'est les deux conceptions qu'on trouve ici. Jésus, c'est bien, c'est un bonus. Ça apporte quelque chose de plus dans ma vie. Et deuxième conception, Jésus, c'est très bien, mais ça manque quelque chose. Il y a une lacune. Donc, Jésus comme bonus, Jésus comme lacune. Et la première conception, c'est la manière que ces pharisiens qui avaient cru concevaient le salut, Jésus, le message de Jésus. Et la deuxième conception, c'est la manière qu'ils auraient voulu que les païens conçoivent Jésus et son offre de salut. Voyons un peu ces deux conceptions de la vie chrétienne qui sont finalement pas très chrétiens. La vision Jésus en tant que bonus. Voilà, c'est ce qui est fort ici, que ces pharisiens, un côté de ce débat, c'était des gens, on apprend en verset 5, qui avaient cru. Quelques pharisiens se levèrent, qui avaient cru, qui disaient qu'il fallait circoncire les païens. Qu'est-ce qu'ils avaient cru? Ils avaient cru le message des apôtres, en quelque sorte, en tout cas. Ils semblaient être pour Jésus. Ils ont apprécié le personnage de Jésus. Ils ont exercé une certaine foi en lui, ce que indique ce verset. Mais ils avaient cru en lui comme un supplément à leur judaïsme. C'est-à-dire un petit quelque chose de plus qui était sympathique. Ils ont certainement vu que Jésus a dit des choses intéressantes. Il a peut-être réagi d'une manière aimante, intéressante. Il a un exemple d'un rabbin patient et gentil. Donc tout ça, ils ont dit, ça oui, c'est bien, on va ajouter ce bonus à notre vie, à notre foi. Et c'est là, ça va pas. Jésus, c'est pas juste un bonus, un supplément. Et il s'est jamais présenté comme ça. Vous vous souvenez, aujourd'hui, c'est dimanche des rameaux. Jésus entre avec les palmiers et tout ça. Et puis, il entre dans le temple et il commence à tout renverser. Il renverse les tables. Il renverse il chasse les sacrifices, tout ça. Et quelque part, il renverse tout ce système de sacrifices, toute cette conception qu'ils avaient du judaïsme de l'époque. Il est en train de le renverser. Et ce qu'il a fait là, c'est aussi ce qu'il doit faire dans notre cœur, à chacun de nous, renverser complètement le système, le mode de pensée que nous avons pour s'approcher de Dieu. Jésus a toujours voulu tout bouleverser, tout renverser. Et c'est là qu'il faut être convaincu que Jésus, il est radicalement différent, radicalement opposé à tout le reste, que ce soit le judaïsme de l'époque ou nos conceptions de la vie et de la spiritualité. Et ça, c'est Jésus lui-même a donné pas mal d'illustrations. Nous on a aussi, si vous voulez repeindre un mur, parce que vous voulez faire tout neuf, tout joli, eh ben, il faut gratter l'ancienne peinture, ou si vous voulez retapisser, il faut enlever l'ancienne tapisserie. Si vous voulez faire un potager dans votre jardin, convertir un bout du jardin en potager, on réfléchit à faire ça chez nous, mais il faut, quelque part, il faut retourner la terre, tout déraciner pour pouvoir planter. Il ne suffit pas juste de jeter des graines. Et ça, l'évangile, c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on ajoute, c'est quelque chose qu'il faut tout revoir. Jésus, son illustration, c'est qu'il ne faut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Et il l'enseignait pas là. Ce que moi j'apporte, c'est radicalement différent, même de votre judaïsme, votre pharisaïsme. Je change tout. Et on apprend ici que les Juifs, certes, ils ne devaient pas abandonner l'héritage culturel qu'ils avaient. Ils ne devaient pas abandonner les principes moraux. On retrouve ça plus tard dans un chapitre. Il faut quand même pas de débauche, d'immoralité sexuelle. Et on n'est pas en train de leur demander d'abandonner leur héritage culturel ni des principes moraux. Mais ils devaient abandonner ces choses en tant que passeport pour aller au ciel. C'est ça le bouleversement. Il fallait abandonner ces choses en tant que passeport au ciel. C'est ça qu'il fallait déraciner. On peut très bien être un pharisien chrétien. Est-ce que vous connaissez un pharisien chrétien? Oui, il s'appelle Paul, l'apôtre Paul. C'était un pharisien chrétien. On peut très bien être un pharisien chrétien, mais il a compris que Jésus n'était pas un supplément à son héritage pharisien. Jésus remplaçait tout ça. Et il dit ça aux Philippiens, Philippiens chapitre 3. Il dit, moi, je suis un pharisien, je suis circoncis, bien comme il faut, je suis irréprochable à l'égard de la loi, j'ai toujours bien fait. Mais il dit, tout ça, je compte pour rien. Tout ça, j'ai déraciné, tout ça, j'ai chamboulé, j'ai bouleversé. Et j'ai renoncé à tout cela. Je regarde tout ça comme de la boue, parce que Jésus, pour moi, il remplace tout ça. Ce n'est pas un supplément à tout ça, il remplace tout ça. Donc vous voyez, Jésus n'est pas un élément de plus à mettre dans votre CV spirituel. J'ai ça, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours aimé Dieu, j'ai toujours... Et puis j'ai rencontré Jésus, il y a ça. Une ligne de plus dans votre CV spirituel. Non, Jésus est... Votre CV spirituel, c'est Jésus. C'est comme ça qu'il faut concevoir le salut et la foi chrétienne. Nous avons un cantique, c'est dans nos petits recueils, qui dit « Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi ». Et ces pharisiens, finalement, je ne pense pas qu'ils auraient pu chanter « Tu es tout pour moi ». Ils auraient pu chanter « Nous, on a tout ce qu'on a, et puis Jésus, il apporte quelque chose de plus. » Mais ils ne pouvaient pas chanter « Il est tout pour moi ». Et c'est pour ça que Paul, dans ses lettres aux Galates, où c'est les mêmes circonstances qui reviennent, c'est la même situation, il parle de ses frères, ses croyants, comme des faux frères. Il dit, vous êtes séparés de Christ si vous pensez que Jésus est juste un supplément à ce que vous avez déjà. Donc Jésus, en tant que bonus dans notre vie, ça ne marche pas. L'autre conception qu'il faut corriger, il me semble, c'est Jésus, c'est bien, mais il faut plus. Donc, Jésus, mais lacune. Et c'est comme ça qu'il présentait à ces païens qui se convertissaient. Ils disaient, oui, c'est très bien de croire en Jésus, vous devez croire en Jésus, mais si vous n'êtes circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc, Jésus, c'est bien, mais exigez un plus pour être sauvés. Le problème avec ce schéma, cette pensée, que Paul et Barnabas ont défendu ou combattu ardemment, le problème avec ce schéma, c'est quand on pose la question, dans ce schéma, qui finalement sauve? Qui finalement est le sauveur? Qu'est-ce qui nous sauve? D'où vient le salut? Jésus sait bien, mais surtout, il faut la circoncision. Dans ce cas-là, qui est sauveur? Qui sauve? Vous voyez vous-même, le sauveur finalement, c'est plus Jésus, c'est soi-même, c'est la circoncision. Et cette question, salut, d'où vient le salut, très fort. Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation, un philosophe, et on l'a cité dans les petites invitations de Pâques, je lis un livre de lui actuellement, mais très intéressant, il définit la philosophie ainsi, de manière intéressante, il dit que la philosophie, toute philosophie, en fait, c'est l'effort de répondre à une question, une seule question, le salut, comment être sauvé. Et sa remarque est intéressante. Il dit, le salut, attention, on n'a pas trop limité à un sens religieux qu'on lui donne à certaines religions, mais le salut, quelque part, c'est la question de tout homme, tout philosophe. Comment être sauvé? Sauvé de la mort, sauvé de la futilité, de la vanité de notre existence, sauvé de toutes les séparations qu'on voit, toutes les absurdités que l'on voit. Et donc, pour lui, et c'est là où on peut le rejoindre, selon lui. La philosophie et les religions se rejoignent parce que chacun s'intéresse à cette question du salut. Lui, il va dire, c'est sa pensée à lui, il va dire que les religions, en fait, proposent un salut par un autre, un majuscule, un autre, et que la philosophie propose un salut par soi-même. Mais je crois que la Bible va aller un peu plus loin que ça. La Bible va aller plus loin et dire, finalement, les religions et les philosophies, c'est pareil, les religions et les philosophies proposent un salut par soi-même. Circoncision ou autre, mais par soi-même. Et la Bible va dire, il n'y a que l'évangile, il n'y a que la bonne nouvelle qui propose, qui offre un salut par un autre, A majuscule, et on le reconnaît, dans la personne de Jésus-Christ. Et en fait, ce sera toujours ça, le grand débat que vous pouvez, dans lequel vous allez forcément participer au sein de votre cœur, et puis en observant tout le monde, ce sera toujours ça le grand débat. Qui sauve? Est-ce que c'est un salut par un autre, Jésus-Christ, ou est-ce que c'est un salut par, finalement, soi-même? Et ça, c'est la grande différence, le grand débat entre la foi chrétienne et tout le reste, me semble-t-il. Donc, on a vu un peu le grand débat. Maintenant, voyons la grande décision. La bonne nouvelle ici, c'est qu'après un grand débat, une grande discussion, ils sont arrivés à prendre une décision. Une décision qu'ils ont publiée. Donc, je me suis arrêté au verset 18, mais Jacques poursuit, verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés. Donc, ça, c'est la décision. On ne va pas créer des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours, le sabbat, dans les synagogues. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont pu arriver à une décision qu'ils vont publier à grande échelle à toutes les églises. Donc, c'est une décision qui va régir toute la mission, toute l'évangélisation, toutes les églises. Quelle est cette grande décision? Comment en sont-ils arrivés? Vous savez, dans les procès juifs ou dans la loi de Moïse, il fallait que tout se règle, toute affaire se règle avec deux ou trois témoins. Ici, on a les deux ou trois. Deux, c'est bien, trois, c'est mieux. Ici, il y a trois témoins, trois témoignages pour pouvoir prendre leur décision. Je vous les montre rapidement. Trois témoignages, trois témoins qui vont permettre de trancher la verre. Le premier témoignage, c'est celui de Pierre, en versets 6 à 11. Pierre, il se lève, il prend la parole, et lui, il raconte notamment son expérience chez Corneille, que nous avons étudié dans le chapitre 10. Corneille, cet homme non-juif, païen, qui s'est converti. Et Pierre va pouvoir dire, moi, j'étais chez lui, j'ai prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et j'ai vu que Dieu a accordé le salut, c'est-à-dire j'ai vu le Saint-Esprit descendre, donc c'est la preuve que le salut est entré dans chez cet homme, dans cette maison. J'ai vu le Saint-Esprit descendre sans aucune autre condition que leur foi. C'est-à-dire, s'il fallait faire quelque chose de plus pour qu'ils soient sauvés, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, certainement le Saint-Esprit ne sera pas descendu avant que cette chose se réalise. Mais Pierre dit, j'ai pas dit, maintenant il faut passer à la circoncision, maintenant il faut faire le sabbat, maintenant il faut changer le régime alimentaire. Pierre dit, j'ai pas dit tout ça, et j'ai vu un salut total par le Saint-Esprit arriver. Donc ça, c'est son témoignage. Chez Corneille, il n'y avait pas besoin de circoncision. Deuxième témoin, c'est en verset 12, c'est le témoignage de Paul et de Barnabas, ou de Barnabas et de Paul, puisque maintenant on est de nouveau à Jérusalem. Et eux, ils vont raconter les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Verset 12. Donc, ils racontent un peu leur voyage missionnaire, leur tournée missionnaire, et ils peuvent dire, on était chez les païens, on annonçait l'évangile, et partout où on annonçait l'évangile, Dieu agissait, Dieu a fait des miracles et des prodiges, des gens se sont convertis, puis ça s'était accompagné même des signes, des prodiges, et donc c'était la preuve quand même que Dieu était avec eux, que Dieu agréait leur mission. Et là, Paul, et comme il va dire aux Galates, nous, on ne prêchait pas la circoncision. Ça aurait été facile de débarquer dans chaque synagogue et dire, il faut se faire circoncire. Là, oui, d'accord. Mais il dit, nos soucis ne sont pas venus de là. Hein. C'est parce qu'on prêchait Jésus-Christ. Et donc, le témoignage de Paul et Barnabas, appuyé par ces miracles de Dieu, comme si Dieu était avec eux, confirme encore une chose. Et puis, troisième témoignage. Et là, c'est le coup de massue pour les Juifs, puisque c'est Jacques qui va le donner. Et c'est Jacques, lui, particulièrement considéré parmi les Juifs. Il est certainement un peu des chefs, des responsables de l'Église à Jérusalem. Et même ses faux frères, ses adversaires de Paul et Barnabas, eux, ils se réclamaient en quelque sorte de Jacques. Ils disaient, on est avec Jacques, on pense comme lui. Donc, même les faux frères se réclamaient en quelque sorte de Jacques, parce qu'ils trouvaient en lui un bon juif, un vrai juif. Et Jacques se lève, il prend la parole lui aussi, et qu'est-ce qu'il fait? Il cite l'Ancien Testament, l'Écriture des Juifs, ils sont tous d'accord, et lui il cite l'Ancien Testament, notamment Amos, mais il va pouvoir dire que les prophètes, les paroles des prophètes, il cite un prophète, mais il a en tête certainement bien d'autres prophètes qui vont pouvoir affirmer la même chose. Il cite Amos, et dans les versets 16 et 17, et cette citation d'Amos, il l'interprète à la lumière de Jésus-Christ, notamment la résurrection de Jésus-Christ, le fils de David, que nous allons fêter dimanche prochain, mais il voit que après cela, je reviendrai, je releverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Et Jacques voit que déjà par la résurrection, la tente de David, c'est un commencement, en tout cas on attend la suite, mais un commencement de la maison de David qui revit, qui ressuscite, et à partir de cela, le reste des hommes vont pouvoir chercher le Seigneur. Donc Jacques voit dans cette prophétie une invitation ouverte au reste des hommes de chercher le Seigneur, et il est convaincu que ce n'est pas que Amos, mais c'est tous les prophètes qui s'accordent avec ça. Et donc, ils arrivent à la grande décision. Trois témoignages, l'Église arrive au grand verdict. Et quel est ce grand verdict? C'est un peu Pierre qui le dit aussi. Eh bien, nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. C'est ça qui était bouleversant, radical à cette époque, mais ça doit l'être encore pour nous aujourd'hui. Nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. C'est-à-dire, nous sommes sauvés de la même manière sur la même base. Et ça veut dire qu'un païen, il peut devenir chrétien sans devenir juif. Un païen peut devenir chrétien sans devenir juif. Parce que finalement, ce n'est rien dans le judaïsme, ce n'est rien propre au judaïsme qui purifie les cœurs. C'est Christ qui fait la même chose pour tous. Ça, c'est une pensée, une grande décision, c'est une pensée radicale. Nous sommes tous sauvés de la même manière. Est-ce que vous croyez ça, que nous sommes tous sauvés de la même manière? Alors, je vais voir. Qui a besoin de plus de grâce? Les gens respectueux et pieux ou les païens très éloignés de Dieu? Qui a besoin de plus de grâce? La réponse de la Bible, c'est pareil. Si le pharisien va au ciel, comme Paul, c'est parce qu'il est couvert de la justice de Christ. Si le païen, si le prostitué, si le publicain, il va au ciel, c'est parce qu'il est couvert de la même justice de Christ. Donc, aux yeux de Dieu, c'est pareil. Qui a besoin de plus de grâce? Qui a besoin d'un plus grand changement de cœur? Celui qui grandit toute sa vie dans une famille chrétienne, toujours sage, ou celui qui a grandi dans un milieu délabré, sans aucune connaissance de Dieu? Qui a besoin de plus de changement de cœur, plus de grâce? La réponse de la Bible, nous sommes sauvés de la même manière. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que pour le même changement de cœur, pour la même purification. C'est ça la grande décision. Revenons un peu, un païen peut devenir chrétien sans devenir juif. Alors là, les implications pour la mission et pour l'évangélisation sont énormes. Un païen peut devenir chrétien sans devenir juif. Et ils décident que dans leur évangélisation, ils vont prendre en considération la différentes cultures, mais c'est jamais une qualité, une qualificatif du salut. Donc, par leur décision, ils vont dire que les juifs, maintenant, on ne doit pas créer des difficultés pour les païens qui se convertissent à Dieu. Les difficultés, ce serait d'exiger plein de choses, de reprendre tout un judaïsme, un sabbat, la circoncision, les règles alimentaires. Ils disent non, on ne va pas créer cette difficulté pour les païens qui se convertissent. C'est superflu, c'est pas nécessaire. Il faut qu'ils se convertissent. C'est déjà suffisamment difficile de se convertir à Dieu. On ne va pas ajouter des difficultés culturelles. Donc les juifs ne vont pas créer des difficultés aux païens. Ça, c'est verset 19. Et après, dans leur lettre, ils rappellent que ce principe doit aussi s'appliquer aux païens envers les juifs. C'est-à-dire, les païens ne devraient pas créer des difficultés à des juifs qui se réunissent en synagogue, qui eux aussi ont besoin de se convertir, eux aussi ont besoin d'être évangélisés. Et les païens, quand ils habitent dans la même ville, par exemple à Antioche ou autre, il y a des synagogues et puis il y a les païens ne devraient pas se comporter, les nouveaux chrétiens notamment, de sorte à créer des difficultés pour les juifs qui pourraient se convertir. Et ces difficultés seraient si vraiment, il y avait certaines choses très, très gros, très visibles, très difficiles pour un juif d'avaler, si les païens vantaient ça facilement, donc les animaux étouffés de sang ou ces choses dans la liste. Ce serait trop choquant pour un juif et il ne pourrait pas entendre l'évangile s'il voyait les païens de suite, si le païen l'évangélisait avec tout ça. Donc, le principe s'applique aux deux peuples. Les juifs ne vont pas créer des difficultés pour les païens et les païens ne vont pas créer des difficultés pour les juifs. Et comme ça, tout le monde peut avoir accès au même évangile. Et ça, c'est les grandes implications pour nous et pour la mission. C'est vrai, l'évangile est suffisamment radical et difficile qu'on va éviter d'ajouter des barrières culturelles et imposer qu'une personne doit complètement quitter sa culture ou changer totalement de pensée pour comprendre l'évangile. Ça veut dire qu'une personne du Moyen-Orient peut devenir chrétienne sans devoir devenir un occidental dans sa pensée et ses traditions. Et en fait, l'évangile va nous apprendre une autre voie. Au lieu d'imposer que les autres deviennent comme nous pour comprendre l'évangile, nous, on va s'adapter aux autres pour leur offrir l'évangile. Vous voyez ? C'est-à-dire, un occidental peut, par amour pour les autres, adopter certaines pratiques, manières de penser orientales, pour les atteindre avec l'évangile. Et donc, au lieu d'exiger et d'imposer que d'autres deviennent comme nous, par amour, nous devenons comme les autres. Et ça, c'est beau. Et c'est ce que Paul a fait. Il y a quelque chose de très curieux ici. En chapitre 15, Paul est intransigeant sur cette question de la circoncision. Il dit non, ceux qui exigent la circoncision pour être sauvés. Alors, ils sont des hérétiques, ils sont des faux frères. Il va écrire des lettres pour les combattre. Il va être intransigeant qu'on n'impose pas la circoncision comme condition de salut. Et puis, en chapitre 16, début de chapitre 16, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre ce jeune homme, Timothée. La première chose qu'il fait avec Timothée, c'est « on va te circoncire, comme ça, c'est bon ». Alors, les gens disent, mais comment il peut être intransigeant en chapitre 15, défendre pas la circoncision, et puis en chapitre 16, l'imposer en quelque sorte à Timothée. Et, en fait, ça revient à ce qu'on disait. Quand c'est une condition pour aller au ciel, quand c'est notre passeport au ciel, pour les fermes, non. L'évangile, c'est par la grâce seule. Donc, pour l'évangile, pour les fermes. Pour l'évangélisation, pour les souples. Vous voyez ? Quand c'est l'évangile en cause, pour les très fermes, pas circoncision. Quand c'est l'évangélisation en cause, pour atteindre notre... Là, il est prêt à s'adapter. En tant que passeport au ciel, non. En tant que passeport pour aller dans d'autres cultures et avoir un impact, oui. Et ça, c'est ce principe qu'il faut toujours garder en tête. Il y a certains principes bibliques qui sont très bien pratiqués dans l'Église. Il y a certains principes de sagesse qui sont très utiles à mettre en place dans une Église, parfois en fonction de la culture. Mais dès qu'on en fait un passeport par le ciel, dès qu'on fait une source de salut, de justification, ça s'appelle hérésie. Mais si on en fait pour atteindre d'autres personnes par amour, ça s'appelle amour et sagesse. Et c'est ça la grande décision qui sortait ici. Et le reste du chapitre le reste du livre des Actes va montrer une très belle histoire. Vraiment, maintenant, l'Évangile part vraiment au loin. Jusqu'à présent, c'était des cas isolés. Ça commençait pas mal à Antioche. Il y avait cet obstacle, cette confrontation qui était réglée et maintenant, ça explose. À partir de maintenant, on ne va plus parler de Pierre. Et on va exclusivement se tourner vers la mission au loin, parce que maintenant, l'évangile, c'est vraiment pour tous. Voilà la grande décision. Grand débat, grande décision. Maintenant, une petite question. Voici la petite question. Qu'est-ce que vous mettez à la place de la circoncision? Ça, c'est ma petite question pour vous. Comment complétez-vous la phrase? Vous ne pouvez pas être sauvé si vous n'êtes pas... Si vous n'êtes pas, selon la coutume de... Ne me dites pas que vous n'êtes pas tenté de mettre autre chose que Christ, parce que ce n'est pas vrai, nous le sommes tous. C'est récurrent. Il y a au moins deux épîtres de Paul qui sont écrits à des chrétiens, à des églises, pour fortement combattre cette tendance d'ajouter quelque chose. Je pense aux Galates et à Colossiens, où le message revient, mais c'est partout dans le Nouveau Testament. Si vous n'êtes pas quoi ? Vous ne serez pas bien, vous ne serez pas sauvé. Parfois, c'est facile à dépister. Ceux qui vont vous dire, si vous n'êtes pas baptisé, bébé, dans tel milieu, vous ne pouvez pas être sauvé. Ou si vous ne parlez pas en langue, vous ne pouvez pas être sauvé. Ou si vous ne donnez pas tant d'argent chaque dimanche, vous ne pouvez pas être sauvé. Ça, c'est assez facile à dépister, ces hérésies-là. Mais parfois, c'est plus subtil. C'est ce que notre cœur nous chuchote parfois. Si vous n'êtes pas bon parent, si vous n'avez pas une vie normale comme tout le monde, si vous n'êtes pas béni de la manière que vous définissez la bénédiction, si vous n'êtes pas béni, si vous ne faites pas partie de notre clan, notre famille, notre tribu, eh ben, votre salut en tout cas ne vaut pas. Ne vaut pas le nôtre. Ce n'est jamais dit comme ça, mais c'est ce que notre cœur pense finalement, surtout quand on reprend la définition du salut, un peu plus large, comme propose Luc Ferry, ce salut de la futilité, de la vanité, de l'échec, d'une vie ratée, d'une vie sans sens. Là, si vous n'êtes pas quoi, vous n'êtes pas sauvé. Je dirais que c'est de loin l'erreur la plus typique et la plus récurrente parmi les chrétiens. C'est-à-dire, en théorie, on parle de Jésus comme notre sauveur, et en pratique, nous avons un autre. Nous avons un autre qui nous restaure, qui nous réjouit, qui nous apaise, qui nous console, qui chuchote à notre cœur, voilà, tout va bien se passer. Si vous n'êtes pas marié, si vous n'êtes pas réussi dans tel domaine de la vie, vous ne pouvez pas être vraiment bien, vraiment réussi, vraiment content, vraiment sauvé. Ça, c'est la petite question avec laquelle je vous laisse. Il y a ce verset, Pierre dit, « Dieu qui connaît les cœurs a purifié nos cœurs par la foi. » Et c'est Dieu qui connaît le cœur, c'est lui qui sait ce que vous mettez, comment vous répondez à cette question. Et c'est lui qui peut vous en purifier si quelque part vous ne mettez pas Christ et que Christ, et vous n'ajoutez rien à Christ, et Christ n'est pas un supplément. C'est lui qui peut nous purifier de cela. On est reconnaissant, très reconnaissant à Paul et Barnabas d'avoir fait ce déplacement. Ils ont été envoyés à Jérusalem. C'était tout un trajet. C'était un trajet qui allait aboutir à un débat, un conflit. Personne n'aime ça, mais ils l'ont fait. Ils l'ont même fait avec joie. C'est intéressant qu'en route, ils racontent la conversion des païens. Ils causaient une grande joie à tous les frères, mais ils sont en route pour Jérusalem, pour une confrontation. Et on est très reconnaissant que, voilà, ils y sont allés pour défendre ardemment la cause de l'Évangile. Ils sont allés avec courage et détermination pour défendre l'Évangile que nous croyons aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants à eux d'avoir combattu pour que nous, païens, nous puissions être sauvés. Mais avant eux, vous savez, il y avait un autre aussi qui est allé avec courage et détermination à Jérusalem. Un autre a été envoyé à Jérusalem. Il a pris la résolution d'y monter, sachant ce qu'il attendait, comme nous avons vu ce matin. Il est monté, il y a eu confrontation, il y a eu un grand débat, et il a été crucifié. Il y avait deux ou trois témoins, mais c'était des faux témoins. Ils l'ont crucifié, mais par sa mort, par sa résurrection, il devient pour nous un sauveur parfait, complet, suffisant. C'est lui qui est allé à Jérusalem pour défendre ardemment notre cause, notre salut, et il l'a fait parfaitement. Et ça fait que nous, qui que nous soyons, nous pouvons aborder demain l'avenir avec une grande assurance. Nous connaissons l'issue. Nous connaissons l'issue de toutes choses. Demain, le grand jour, le jugement dernier, nous connaissons l'issue maintenant. Nous savons que nous sommes et nous pouvons être sauvés de tout ça parce que Christ a payé à notre place. C'est lui qui nous donne la paix, la victoire, la vie éternelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Nous allons encore vivre et combattre pour cette bonne nouvelle, pour que Dieu se glorifie dans nos vies. Prions. Seigneur, nous te remercions pour l'issue de ce concile. Nous te remercions de ce que, malgré les tentatives du malin, les fausses pensées, les fausses doctrines, les erreurs, pour empêcher que les gens puissent venir à toi, être sauvés complètement. Nous te remercions de ce que tu as remporté. Et nous croyons que tu veux aussi remporter dans nos cœurs ce matin, au plus profond de notre cœur, il y a peut-être ce même débat, ces mêmes questions. Finalement, comment être sauvé? Suis-je sauvé? Qu'est-ce que c'est d'être chrétien? Seigneur, nous te prions que chacun de nous puisse regarder pleinement à Jésus-Christ. Seigneur, il n'a rien ajouté à ce qu'il a fait pour nous, mais se confier pleinement, entièrement, uniquement en lui et son œuvre, sa mort et sa résurrection. Béni sois-tu, conduis-nous cette semaine. Nous pensons aux événements du week-end. Nous allons pouvoir réfléchir, méditer ces choses. Et te prions de nous aider à les appliquer à notre vie pour être des chrétiens stables, des chrétiens remplis de joie, d'assurance, prêts à tout affronter, Seigneur, avec une telle bonne nouvelle. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.
En écoutant Samuel, je pensais à ces convocations des témoins à la barre. On leur demande de jurer, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et cette expression, toute la vérité et rien que la vérité, ça signifie, si j'ajoute quelque chose à la vérité, c'est plus la vérité. Et si je retranche quelque chose à la vérité, c'est pas la vérité non plus. Nous devons annoncer Jésus, croire en Jésus seul, en Jésus tout entier pour le salut de notre âme.